Club des poètes et vive la poésie.
Qu'aimes-tu le mieux, homme énigmatique, dis? Ton père, ta mère, ta sœur ou ton frère? Je n'ai ni père, ni mère, ni sœur, ni frère. Tes amis? Vous vous servez là d'une parole dont le sens m'est resté jusqu'à ce jour inconnu. Ta patrie? J'ignore sous quelle latitude elle est située. La beauté? Je l'aimerais volontiers, déesse et immortelle. L'or? Je le hais comme vous haïssez Dieu. Et qu'aimes-tu donc, extraordinaire étranger? J'aime les nuages qui passent, là-bas, là-bas. Les merveilleux nuages.
Alors, parmi les poèmes qui seront dits ce soir, il y a donc un certain nombre de poèmes qui sont, qui font partie des pièces condamnées, c'est-à-dire des pièces que Baudelaire avait été amené à retirer du recueil des Fleurs du Mal dans sa première édition. Donc, et alors, on avait fait une fois au Club des Poètes, mais c'est il y a quelque temps, on avait fait une sorte de reconstitution du procès des Fleurs du Mal. Et ça avait donné lieu à une petite notice, un petit article en quelque sorte, qu'on avait publié dans Vivre en Poésie, je crois, ou bien c'était un compte-rendu de notre association. Alors, je vais vous le lire. Le procès des Fleurs du Mal. Arthur Rimbaud disait de lui « c'est un dieu ». La justice de Napoléon III, qui voyait plutôt en lui un diable, le contraignit à retrancher plusieurs poèmes des Fleurs du Mal pour outrage à la morale publique. Dans les deux cas, le jugement est sans appel, Charles Baudelaire est condamné à la postérité. Le procès de Baudelaire, il doit se présenter le 20 août 1857 à l'audience de la 6e chambre correctionnelle, devant laquelle sont traduits des escrocs, des souteneurs et des prostituées, ne dure que quelques heures. Le processus de Pinard, procureur général, est simple. Dresser un catalogue de passages isolés les plus outrageants, afin de démontrer à la cour l'offense indéniable à la morale publique et religieuse. La défense de l'avocat de Baudelaire, Maître Chédestange, n'est guère plus brillante. Gêné dans sa plaidoirie par un poète qui préférerait se défendre seul et sans que soient abordés certains points de sa vie privée et familiale, le défenseur se contente essentiellement de comparaisons avec d'autres ouvrages fort connus, pourtant équivoques mais jamais poursuivis. Le verdict est à la hauteur des plaidoiries. Le tribunal ne relève pas l'offense à la morale religieuse, mais considère qu'en ce qui touche à la morale publique et aux bonnes mœurs, il y a bien lieu à condamnation, ouvrage contenant des passages ou expressions obscènes et immorales. Alors, on va écouter un de ces poèmes qui contient des passages obscènes et immorales, il faut que je le retrouve. C'est Michel Dozon qui l'interprète, ça s'appelle « Les bijoux ». Et Michel Dozon est quelqu'un qui, quand il avait 20 ans, faisait partie de la troupe du Club des Poètes, et maintenant il doit en avoir... peut-être 75 ou quelque chose comme ça, et il continue à dire des poèmes. Et l'autre fois, il m'a envoyé une vidéo que je vous montrerai un jour, dans laquelle il dit le bateau ivre de Rimbaud en escaladant un arbre. Donc à 75 ans, il faut le faire quand même. Là, il interprète pour nous donc un poème qui s'intitule « Les bijoux » et qui fait partie des pièces condamnées.
La très chère était nue, et connaissant mon cœur, elle n'avait gardé que ses bijoux sonores, dont le riche attirail lui donnait l'air vainqueur, qu'ont dans leurs jours heureux les esclaves des morts. Quand il jette en dansant son bruit vif et moqueur, ce monde rayonnant de métal et de pierre me ravit en extase, et j'aime à la fureur les choses où le son se mêle à la lumière. Elle était donc couchée et se laissait aimer, et du haut du divan, elle souriait d'aise à mon amour, profond et doux comme la mer, qui vers elle montait comme vers sa falaise. Les yeux fixés sur moi comme un tigre dompté, d'un air vague et rêveur, elle essayait des poses, et la candeur unie à la lubricité donnait un charme neuf à ses métamorphoses. Et son bras et sa jambe et sa cuisse et ses reins, polis comme de l'huile, onduleux comme un cygne, passaient devant mes yeux, clairvoyants et sereins. Et son ventre et ses seins, ses grappes de ma vigne, s'avançaient, plus câlins que les anges du mal, pour troubler le repos où mon âme était mise, et pour la déranger du rocher de cristal où, calme et solitaire, elle s'était assise. Je croyais voir, unies par un nouveau dessein, les hanches de l'Antiope au buste d'un imberbe, tant sa taille faisait ressortir son bassin. Sur ce teint fauve et brun, le phare était superbe, et la lampe s'étant résignée à mourir, comme le foyer seul illuminait la chambre, chaque fois qu'il poussait un flamboyant soupir, il inondait de sang cette peau couleur d'ambre.
Merci beaucoup à Michel Dauzon. Et je vous disais tout à l'heure, j'ai un petit peu, pour me mettre dans l'ambiance de cette émission, j'ai trouvé sur Internet une émission de France Culture qui s'appelle Charles Baudelaire par Charles Baudelaire, et dans lequel, en fait, on découvrait la vie de Charles Baudelaire, mais vraiment à travers des textes que lui-même avait écrits à différentes époques de sa vie, depuis la plus grande jeunesse. Et il y avait quelque chose de très émouvant à entendre Baudelaire, dans ses lettres, expliquer à sa maman que, voilà, il n'était pas très bon à l'école et tout ça, mais que il pensait beaucoup à elle et qu'il l'aimait et que il voudrait quand même qu'elle lui, au moins qu'elle lui écrive ou qu'elle vienne le voir de temps en temps et qu'il essaierait de faire oublier toutes les bêtises qu'il avait faites et que, enfin, c'est très touchant. C'est aussi, hein, je pense, quelque chose auquel on ne pense pas souvent quand on pense à Baudelaire. Et il y a pourtant ce petit poème-là que va nous dire maintenant Pascal Huvé, que vous allez écouter, qui fait partie des poèmes très rares chez Baudelaire, où, sans désir de transgresser aucunement, il exprime simplement sa nostalgie du monde de son enfance. Pascal Huvé.
Je n'ai pas oublié, voisine de la ville, notre blanche maison, petite mais tranquille. Sa pomone de plâtre et sa vieille Vénus dans un bosquet chétif cachant leurs membres nus. Et le soleil, le soir, ruisselant et superbe, qui derrière la vitre où se brisait sa gerbe, semblait, grand œil ouvert, dans le ciel curieux, contempler nos dîners longs et silencieux, répandant largement ses beaux reflets de cierge sur la nappe frugale et les rideaux de serge.
Voilà, c'était une évocation, une sorte de, comment dire, de petit mot marqué sur un carnet de notes intimes où il évoquait comme ça son enfance. On alterne comme ça dans cette émission entre les différents aspects de la sensibilité de Baudelaire, vous le voyez. On va retourner vers quelque chose qui est aussi un aspect que auquel on ne pense pas souvent concernant Baudelaire, c'est son regard sur autrui, avec ce très joli poème, petit poème en prose, que c'est Pascal qui l'interprète encore, et ce poème s'intitule « Les fenêtres ». Et où on voit qu'à partir de simplement une rencontre, une image qu'il a d'une personne qu'il croise, eh bien, il fait vivre en lui tout un imaginaire.
Les fenêtres de Charles Baudelaire. Celui qui regarde du dehors à travers une fenêtre ouverte ne voit jamais autant de choses que celui qui regarde une fenêtre fermée. Il n'est pas d'objet plus profond, plus mystérieux, plus fécond, plus ténébreux, plus éblouissant qu'une fenêtre éclairée d'une chandelle. Ce qu'on peut voir au soleil est toujours moins intéressant que ce qui se passe derrière une vitre. Dans ce trou noir ou lumineux, vit la vie, rêve la vie, souffre la vie. Par-delà des vagues de toit, j'aperçois une femme mûre, ridée déjà, pauvre, toujours penchée sur quelque chose et qui ne sort jamais. Avec son visage, avec son vêtement, avec son geste, avec presque rien, j'ai refait l'histoire de cette femme. Ou plutôt sa légende, et quelquefois je me la raconte à moi-même en pleurant. Si c'eût été un pauvre vieux homme, j'aurais refait la sienne, tout aussi aisément, et je me couche, fier d'avoir vécu et souffert dans d'autres que moi-même. Peut-être me direz-vous, es-tu sûr que cette légende soit la vraie? Qu'importe ce que peut-être la réalité est placée hors de moi, si elle m'a aidé à vivre, à sentir que je suis et ce que je suis.
Alors, maintenant, on va écouter un poème qui illustre un peu ce que je disais en début de d'émission, à savoir qu'il y a quelque chose de profondément pieux, on peut dire, et fervent. C'est très curieux parce que, bon, il est considéré comme un blasphématoire. On a hésité longtemps avec mon amie Faustine à savoir si elle allait interpréter ou non les litanies de Satan, puis on lui dit on va pas invoquer des choses aussi horribles. C'est une forme de censure, vous me direz, mais on essaie de placer notre émission sous un signe de bénédiction plutôt que de malédiction. Mais quoi qu'il en soit, il y a une forme de, comment dire, Baudelaire est d'une certaine manière très religieux. Et même, bien sûr, s'il attaque les croyances habituelles, c'est-à-dire s'il se permet de blasphémer en quelque sorte, ça, néanmoins, ça montre son concernement sur la question de Dieu, à propos de la question de Dieu et à propos de la religion. Et je trouve qu'un des poèmes qui illustre très bien ça, j'ai essayé d'exprimer depuis le début cette tension qu'il y a entre ce monde dans lequel on est et où Baudelaire ne trouve pas sa place, et puis ce sentiment immense qu'il existe une beauté et qu'elle doit bien exister quelque part, et si elle n'existe pas dans ce monde où nous sommes maintenant, dans la vie, où va-t-il la chercher? Et il se propose d'aller la chercher après la vie. Alors c'est un peu, c'est de mon point de vue, c'est un peu un des dangers, en quelque sorte, de la foi, en particulier de la foi catholique, cette tension entre la vie et la mort qui fait que si on a une telle espérance d'accomplissement et de plénitude après la vie, comment peut-on supporter la vie telle qu'elle est maintenant? Et c'est un peu, je crois, dans ce poème que va nous dire Clémence maintenant, c'est un peu le thème en filigrane, parce que il s'agit de deux amoureux, donc deux flammes jumelles, deux corps qui abritent une seule âme, et donc qui se retrouvent dans la mort pour une apothéose. Ça s'appelle La mort des amants, et c'est interprété par Clémence.
Nous aurons des lits pleins d'odeurs légères, des divans profonds comme des tombeaux, et d'étranges fleurs sur des étagères, écloses pour nous sous des cieux plus beaux. Usant à l'envi leur chaleur dernière, nos deux cœurs seront deux vastes flambeaux qui réfléchiront leur double lumière dans nos deux esprits, ces miroirs jumeaux. Un soir fait de rose et de bleu mystique, nous échangerons un éclair unique comme un long sanglot tout chargé d'adieux.
et plus tard un ange, entr'ouvrant les portes, viendra ranimer, fidèle et joyeux, les miroirs ternis et les flammes mortes.
Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Tu réclamais le soir, il descend, le voici. Une atmosphère obscure enveloppe la ville, aux uns portant la paix, aux autres le souci. Pendant que des mortels, la multitude de villes, sous le fouet du plaisir, ce bourreau sans merci, va cueillir des remords dans la fête servile, ma douleur, donne-moi la main, viens par ici, loin d'eux. Vois se pencher les défuntes années, sur les balcons du ciel en robe surannée, du fond des eaux surgir le regret souriant, le soleil moribond s'endormir sous une arche, et, comme un long linceul traînant à l'orient, entends, ma chère, entends, la douce nuit qui marche.
Vous savez que, à la fin de sa vie, Baudelaire a écrit un livre, donc il aurait voulu être sa biographie. Il était parti en Belgique, où il espérait, parce que c'est là que Victor Hugo avait été édité, et notamment que Les Misérables avaient été édités, il espérait lui aussi trouver des éditeurs qui lui permettraient de rencontrer enfin le succès. Il espérait aussi trouver un public pour faire des conférences sur le thème de l'art, notamment de la peinture. Mais ça n'a pas eu grand succès, ce qui fait qu'il a écrit un journal où, en gros, il insulte tout le monde, mais avec le génie de Baudelaire, bien sûr, mais les Belges, notamment, en prennent pour leur grade, à tel point qu'on se demande s'il s'adresse vraiment, s'il parle vraiment des Belges, ou s'il projette pas un peu l'image de tout ce qu'il déteste sur la Belgique et sur les Belges. Et en particulier, je crois que ce qu'il exècre le plus, et souvent c'est le cas des poètes, c'est... la mentalité petite bourgeoise, égoïste et sans envergure qu'il a pu rencontrer là-bas, mais qu'il aurait pu bien sûr rencontrer ailleurs. Et je ne sais plus du tout pourquoi j'étais en train de vous raconter tout cela. J'étais parti de quelque chose et puis après, je me suis perdu entre-temps. Mais alors, plutôt que de me perdre n'importe où, je vais me perdre en mer. Et on va écouter maintenant « L'homme et la mer » par mon ami Cédric, qui venait au club il y a quelques années, qui a rencontré une dulcinée, avec qui il a maintenant une petite fille merveilleuse, et ils habitent bien loin de Paris, mais grâce à Dieu, j'ai de temps en temps des nouvelles d'eux. On écoute Cédric.
On va dire l'homme et la mère de Baudelaire. Homme libre, toujours tu chériras la mer. La mer est ton miroir. Tu contemples ton âme dans le déroulement infini de sa lame, et ton esprit n'est pas un gouffre moins amer. Tu te plais à plonger au sein de ton image, tu l'embrasses des yeux et des bras, et ton cœur se distrait quelquefois de sa propre rumeur, au bruit de cette plainte indomptable et sauvage. Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets. Homme, nul n'a sondé le fond de tes abîmes. Ô mer, nul ne connaît tes profondeurs intimes, tant vous êtes jaloux de garder vos secrets. Et cependant, voilà des siècles innombrables que vous vous combattez sans pitié ni remords, tellement vous aimez le carnage et la mort. Ô lutteurs éternels, ô frères implacables.
Voilà donc Cédric, qui est un garçon que j'aime beaucoup, que j'ai connu, comme c'est souvent le cas, parce que souvent je rencontre des tout jeunes gens au Club des Poètes, et puis je les vois évoluer, grandir, et puis, trouver leur direction dans la vie, parce que souvent, la poésie, d'une certaine manière, exactement de la façon dont Baudelaire lui-même était en souffrance dans l'existence qu'il menait, et bien de la même manière, Cédric, quand je l'ai rencontré, il était en souffrance aussi. Et il n'arrivait pas à trouver sa place. Il cherchait quelque chose qui puisse nourrir son désir de beauté, son désir d'amour, son désir d'absolu. Et je dois dire que il a rencontré cette jeune femme hongroise au club. Et puis aussi, il a rencontré au club toute une assemblée d'amis avec qui il a pu partager justement cette recherche-là, ce désir-là. Et je crois que ça l'a aidé à un moment où c'était important, justement, de manière à ne pas, comment dire, se dégoûter de la vie, de s'apercevoir qu'on n'est pas seul à espérer quelque chose qui ne soit pas simplement gagner sa vie, travailler toute la journée, consommer et mourir. Alors je crois que ce serait triste si la vie n'était que ça, mais heureusement, elle n'est pas que ça. Et nous sommes nombreux à nous en rendre compte. Alors maintenant, je voulais absolument vous faire écouter Les Phares, donc qui est un poème que j'aime beaucoup, que j'ai demandé à mon amie Clémence d'enregistrer. Alors c'est quelque chose de très intéressant aussi, parce que ce poème, parce que dans ce poème, Baudelaire manifeste le fait que, d'une certaine manière, la seule manière d'appréhender vraiment la beauté dans la vie concrète et quotidienne, c'est l'art. Mon père, Jean-Pierre Renel, fondateur du Club des Poètes, a écrit un poème qui s'appelle « Notre-Dame de la poésie » que Bado interprète très bien. Et dans ce poème, justement, c'est ce qu'il dit. Il dit que sans la poésie, la vie lui aurait été vraiment insupportable. Et mon père disait ça souvent. Et je crois, d'une certaine manière, que c'était aussi ce que ressentait à Baudelaire, parce qu'il avait cette sensibilité-là qui fait que le réel quotidien le heurtait. Et donc, c'est à travers la beauté que transmettent les artistes qu'il arrivait à accepter ce monde. C'est ce qu'il dit dans Les Phares.
Rubens, fleuve d'oubli, jardin de la paresse, oreiller de chair fraîche où l'on ne peut aimer, mais où la vie afflue et s'agite sans cesse, comme l'air dans le ciel et la mer dans la mer. Léonard de Vinci, miroir profond et sombre, où des anges charmants, avec un doux sourire tout chargé de mystère, apparaissent à l'ombre des glaciers et des pins qui ferment leur pays. Rembrandt, triste hôpital tout rempli de murmures, et d'un grand crucifix décoré seulement, où la prière en pleurs s'exhale des ordures, et d'un rayon d'hiver traversé brusquement. Michel-Ange, lieu vague où l'on voit des Hercules se mêler à des Christs et se lever tout droit des fantômes puissants qui dans les crépuscules déchirent leur sueur en étirant leurs doigts. Colère de boxeur, impudence de faune, toi qui suramassais la beauté des goujats, grand cœur gonflé d'orgueil, homme débile et jaune, pugé, mélancolique empereur des forçats. Watteau, ce carnaval où bien des cœurs illustres comme des papillons, errent en flamboyant. Des corps frais et légers, éclairés par des lustres qui versent la folie à ce bal tournoyant. Goya, cauchemar plein de choses inconnues, de fœtus qu'on fait cuire au milieu des sabbats, de vieilles au miroir et d'enfants toutes nues, pour tenter les démons, ajustant bien leurs bas. Delacroix, lac de sang hanté des mauvais anges, ombragé par un bois de sapin toujours vert, où, sous un ciel chagrin, des fanfares étranges passent comme un soupir étouffé de Weber. Ces malédictions, ces blasphèmes, ces plaintes, ces extases, ces cris, ces pleurs, ces tédéum, sont un écho redit par mille labyrinthes. C'est pour les cœurs mortels un divin opium. C'est un cri répété par mille sentinelles, un ordre renvoyé par mille porte-voix. C'est un phare allumé sur mille citadelles, un appel de chasseurs perdu dans les grands bois. Car c'est vraiment, Seigneur, le meilleur témoignage que nous puissions donner de notre dignité, que cet ardent sanglot qui roule d'âge en âge et vient mourir au bord de votre éternité.
Voilà, c'était notre amie Clémence qui prêtait sa voix à Charles Baudelaire et aussi au beau peintre dont Charles Baudelaire fait ici l'apologie. Vous le savez, Baudelaire a voulu, et il l'a été, pas avec le succès qu'il aurait voulu, mais avec beaucoup de génie, bien sûr, être critique d'art. Et on va écouter maintenant Clémence qui nous parle un peu justement de cet aspect de son travail. C'est moi qui lui ai demandé de faire ça tout à l'heure et elle m'a fait l'amitié de nous préparer un tout petit texte, mais dans lequel elle dit des choses qui nous vont nous éclairer.
Baudelaire et les peintres. Ce poète a révolutionné la critique d'art. Adieu, critique froide et érudite. Baudelaire nous parle avec son cœur et avec ses sensations propres. Avant de s'imposer comme poète, il s'est fait un nom comme journaliste spécialisé dans les arts. Il nous a laissé une volumineuse production de textes critiques, affirmant une esthétique personnelle qui sous-tend sa propre création poétique. Il disait « Je crois sincèrement que la meilleure critique est celle qui est amusante et poétique, non pas celle-ci, froide et algébrique, qui, sous prétexte de tout expliquer, n'a ni haine ni amour et se dépouille volontairement de toute espèce de tempérament. Mais, un tableau étant la nature réfléchie par un artiste, celle qui sera ce tableau réfléchi par un esprit intelligent et sensible. Ainsi, le meilleur compte-rendu d'un tableau pourra être un sonnet ou une élégie. »
Voilà, c'était notre amie Clémence. Vous avez entendu sa voix juste avant. Elle lisait le poème Les Phares, vous l'aviez entendu tout à l'heure dire aussi « Enivrez-vous » et puis « La mort des amants ». Et là, elle nous parlait un peu donc des relations entre Baudelaire et la peinture. Et je dois dire que souvent, quand on écoute les poèmes de Baudelaire, eh bien l'amour est très proche de la mort. Et puis aussi, il y a souvent une dimension de souffrance dans l'amour. On va écouter maintenant un poème chanté qui s'appelle « Le vampire » et qui vraiment, illustre ce que je viens de dire.
Toi qui, comme un coup de couteau, dans mon cœur plein t'y fais entrer. Toi qui, forte comme un troupeau, de démons vint fort et paré. De mon esprit humilié, faire ton lit et ton domaine, infâme à qui je suis lié, comme le forçat à la chaîne, comme au jeu le joueur têtu, comme à la bouteille l'ivrogne, comme au vermine la charogne, maudite, maudite sois-tu. J'ai brillé le glaive rapide de conquérir ma liberté, et j'ai dit au poison perfide de secourir ma lâcheté. Hélas, le poison et le glaive m'ont pris en dédain et m'ont dit: tu n'es pas digne qu'on t'enlève à ton esclavage maudit, imbécile. De son empire, si nos efforts te délivraient, tes baisers ressusciteraient le cadavre de ton vampire.
C'était « Et vive la poésie !» l'émission hebdomadaire du Club des Poètes, et pour terminer, quelques mots du fondateur Jean-Pierre Renais.
Bonsoir amis, bonsoir, qui que vous soyez, où que vous soyez, si vous avez quelque chose sur le cœur, quelque chose qui passe difficilement, écrivez-moi tout de suite comme on écrit à un ami, et nous serons peut-être un peu moins seuls. Bonsoir, à la semaine prochaine, et vive la poésie !